Il est midi et demi. L'heure de retrouver les informations avec vous, Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Le groupe automobile PSA envisage des ruptures conventionnelles collectives, dispositif prévu par les ordonnances de la loi travail et ce dès janvier. Précision et enjeu avec Hakim Kasmi. Le classement Bloomberg des grandes fortunes mondiales, les 500 personnes les plus riches du monde ont accru leur fortune cette année de 23%, compte rendu de ce classement avec Catherine Pétillon. Un attentat très meurtrier ce matin à Kaboul, au moins 40 personnes tuées, attaque d'un centre culturel chiite. Le groupe État islamique revendique, analyse de Nabila Hamel. Que faire des enfants de djihadistes français arrêtés en Syrie ou en Irak? 3 enfants d'un couple français parti rejoindre l'État islamique en Irak ont été rapatriés. Récit avec Antoine Marette et puis l'invité de la séquence interview court cette semaine. Tenter de retrouver le fil de l'actualité, l'historienne Sophie Vaniche est avec nous dans la dernière partie de la Grande Table, Raphaël Bourgois.
On continue notre exploration dans cette semaine spéciale de France Culture et on va parler des mutations du tourisme avec Jean-Didier Urbain.
Il est probable que l'on entende souvent parler l'an prochain de ce dispositif de rupture conventionnelle collective prévu par les ordonnances réformant le Code du travail. Tout comme la rupture conventionnelle individuelle, donc cette version collective permet de rompre un contrat de travail de manière négociée. Il permet aussi à l'employeur de supprimer des postes sans passer par la case démission ou la case licenciement et en dehors donc du cadre contraint d'un plan social. Selon Le Parisien, le groupe automobile PSA va donc proposer aux syndicats d'y avoir recours dès le mois prochain. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Antoine Mercier.
Alors pour ce faire, il faut tout de même l'accord des syndicats et la question va donc être soumise à l'ordre du jour du prochain comité central d'entreprise du groupe, ce sera le 9 janvier.
Oui, la nouvelle rupture conventionnelle collective est une aubaine pour les grands patrons en quête de flexibilité. De plus, avec cette mesure, pas besoin de se justifier vis-à-vis de l'État qui détient, rappelons-le, 14% du capital de PSA. Sauf que pour être définitivement validée, elle doit faire l'objet d'un accord majoritaire avec les syndicats, d'où cette forme et ces sources qui ont été révélées dans la presse ce matin, car la direction qui confirme aussi de son côté les a donc convoqués le 9 janvier prochain. Pour PSA, l'idée est donc de réajuster ses effectifs, mais aussi de gagner en rentabilité en fonction des besoins et des commandes, comme le prévoit le plan mis en place par Carlos Tavares en 2013, Back in the Race, qui prévoit bien de la rentabilité, ce qui s'est déjà traduit par la suppression de 25 000 postes, dont 3 000 rien que cette année. Le groupe qui vient de racheter Opel pour 1,3 milliard d'euros a également besoin de cash, notamment à cause du manque d'anticipation de General Motors, qui détenait Opel, sur les normes anti-pollution imposées par Bruxelles à partir de 2021. PSA lui réclame donc 500 millions d'euros de dommages et intérêts, auxquels il faut ajouter un manque de rentabilité. Pour Opel, les marges ne sont que de 400 euros par voiture vendue, l'objectif étant d'arriver au double. Idem pour Peugeot et Citroën d'ici quelques années. Aujourd'hui, PSA produit 58% de ses voitures en France, contre 35% pour son principal rival Renault, un chiffre qui devrait baisser dans les prochaines années, car PSA multiplie les ouvertures d'usines à l'étranger, comme à Knitra au Maroc et dans la région de Rouen en Algérie très prochainement.
Merci beaucoup Hakim Kasmi de nous avoir ramené Back in the Race. Parmi les commentaires ce matin, celui du député France Insoumise Alexis Corbière, interrogé sur RTL.
Est-ce qu'il faut donner un outil supplémentaire à des grands groupes qui réalisent des profits pour licencier les gens, laisser sur le carreau éventuellement des salariés de plus de 50 ans, leur supprimer des droits, ne plus avoir une contrainte de les former, etc., etc. Moi je ne veux pas de ça, je ne veux pas pour moi, je ne veux pas pour vous, je ne veux pas pour les gens qui m'écoutent. Je ne crois pas que ce soit en flexibilisant, en ubérisant toujours plus la société qu'on va s'en sortir. Qu'est-ce que ça produit tout ça? Une accumulation de richesses pour certains, une précarité pour d'autres. Voilà, le but, l'objectif du 21e siècle quand on est civilisé, c'est le partage des richesses, c'est des droits sociaux, c'est pas en permanence au nom de la souplesse, de la modernité, toute une série de fadaises, mettre les gens encore plus en situation de précarité.
Alexis Corbière avec Jérôme Chapuis ce matin.
Le classement Bloomberg des grandes fortunes mondiales, les 500 personnes les plus riches du monde ont accru leur fortune cette année de 23%.
Voilà, ça fait près de 5 400 milliards de dollars, ça fait 1 000 milliards de plus que l'an dernier. Et au classement, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, dépasse Bill Gates et Warren Buffett. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Comment on explique d'abord cette très forte hausse globale de ces fortunes?
Eh bien, ce qui augmente avant tout, c'est la valorisation en bourse de leurs actions. Attention, ces milliardaires sont actionnaires de groupes mondialisés et tous ont bénéficié de l'envolée des bourses dans le monde en 2017. Cette année, pour intégrer le classement, il fallait posséder un patrimoine d'au moins 4,1 milliards de dollars. Le capital des gens les plus riches représente, vous le disiez, 5 400 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'est deux fois le PIB de la France. La tête du classement résume bien ce qui se passe. Celui qui est devenu cette année le plus riche du monde, c'est donc Jeff Bezos, le patron d'Amazon. L'action en bourse du groupe a augmenté de 57% et en tant qu'actionnaire, Bezos en profite à plein. Ses revenus ont bondi de 34,2 milliards de dollars en un an. Désormais, sa fortune dépasse les 100 milliards de dollars. C'est le deuxième homme d'affaires à atteindre ce seuil symbolique après Bill Gates, le fondateur de Microsoft, qu'il détrône au passage.
Voilà. Alors, comment se présente maintenant le classement plus généralement ?
Mais il reste dominé par les Américains avec 159 noms dans ce top 500. Il faut dire que des attentes générées par la réforme fiscale de Donald Trump ont entraîné un envol des actions boursières, beaucoup espérant davantage de dividendes grâce à la baisse de l'impôt sur les sociétés de 35 à 21%, baisse prévue par la réforme qui a été adoptée mercredi par le Sénat américain. On dénombre aussi 126 asiatiques, la Chine notamment compte 29 milliardaires, leur fortune s'est accrue de 65% contre 7 milliardaires en Afrique. Bénéficiant entre autres d'une hausse de l'euro, les Européens, eux, sont plus nombreux qu'avant, 122 dans le classement, dont 13 Français. Le premier, c'est Bernard Arnault, avec 23,6 milliards d'euros. Le patron de LVMH devient la 15e fortune mondiale. Enfin, pas de surprise de ce côté-là non plus. Ceux qui s'enrichissent le plus sont avant tout des hommes. Seulement 65 femmes dans ce classement. La première, 16e fortune mondiale, c'est Alice Wharton, la fille du fondateur du géant américain Walmart. Elle est suivie par la Française Françoise Bettencourt-Meyers, héritière de sa mère Liliane, et dont la fortune est évaluée à 44,7 milliards.
Voilà, on peut peut-être dire un mot aussi quand même du secteur, parce que c'est le numérique manifestement qui l'emporte dans ce classement de plus en plus.
Oui, plus d'un milliardaire sur 10 vient de ce secteur. Dans les 5 premiers, on trouve donc Bezos, Gates et Zuckerberg. Le patron de Facebook, qui vaut 513 milliards en bourse, pèse 72,6 milliards de dollars. Ajoutons Larry Ellison d'Oracle, Larry Page et Sergey Brin de Google. Bref, les 7 que l'on trouve dans le top 20 ont vu leur fortune accrue de 115,7 milliards de dollars en un an seulement. Ce classement intervient quelques semaines après la publication du premier rapport sur les inégalités mondiales. Cette enquête, dirigée par les économistes Thomas Piketty et Lucas Chancel, montrait que les 1% les plus riches de la population mondiale ont capté 27% de la croissance des revenus dans le monde depuis 1980 et pointait combien l'explosion des inégalités sur la planète menace la croissance mondiale.
Catherine Pétillon, merci bien. Un rappel, les chiffres du chômage en baisse en novembre en France, à leur plus bas niveau depuis 3 ans. 3 450 000 chômeurs inscrits sur les listes de Pôle emploi. Embellie timide tout de même, puisqu'il s'agit d'une baisse de 0,1% sur un an. À propos du contrôle des chômeurs que l'exécutif veut renforcer, Emmanuel Macron est intervenu dans le débat hier depuis son lieu de vacances. Il estime que ce contrôle est normal, qu'il ne présente rien de choquant et il prédit que sa politique va apporter des résultats progressifs de baisse du chômage. Alors on l'a vu au diverses réactions que la révélation du canard enchaîné a suscité. Le sujet du contrôle des chômeurs a suscité beaucoup de réactions. C'est un sujet inflammable. Ça semble sans doute justifier un changement de pied en matière de communication, puisqu'Emmanuel Macron a un peu repris ce que faisait François Hollande, notamment en commentant la situation devant une caméra, simplement au pied des pistes où il se trouvait. Quelle est la raison de cet accro à la théorie de la parole rare, Ludovic Quétenu ?
Bon, il faut rappeler que cette théorie a déjà été écorchée il y a tout juste une semaine, quand le président a faim de découvrir qu'il était en direct le soir de ses 40 ans dans une émission de divertissement très populaire sur C8 animée par Cyril Hanouna. Tout cela était calé à l'avance. C'est un moyen choisi par l'Élysée pour toucher un public qui ne lit pas nécessairement des quotidiens ou la presse magazine, ou qui n'écoute pas France Culture, ou qui n'était pas devant son poste de télé le dimanche précédent pour cette interview à Laurent Delahousse sur France 2. Un autre moment qui a aussi abîmé cette théorie de la parole rare. En réalité, les communicants du président considère qu'il lui faut pousser son avantage. C'est parce qu'il remonte dans les sondages qu'il est attendu et donc qu'il ne faudrait pas laisser le terrain vierge. C'est donc un peu façon Hollande. C'est vrai qu'Emmanuel Macron est apparu hier soir à la sortie d'un magasin de ce village de montagne devant la seule caméra de LCI qui traque ses faits et gestes sous quelques petits flocons qui tombent sur un président qui, dès le début de cette séquence, tout en répondant à cette question sur un contrôle renforcé des chômeurs, lève le bras pour saluer un automobiliste de passage. On retrouve ici, c'est vrai, des choses que l'on a connues sous le quinquennat précédent, avec un discours néanmoins plus ferme, réfutant toute hypocrisie ou action secrète. On fait comme on a dit, dit Emmanuel Macron, je l'ai dit dans la campagne et on le fera. Et puis il faut des règles, insiste-t-il encore. Emmanuel Macron en anorak, ouvert sur un pull en laine façon école de ski français barré tricolore, ce bleu blanc rouge, seule marque, dirons-nous, républicaine, qui apparaît sur ses habits de vacancier bien éloignés du chef de guerre. c'est cette image pourtant qu'il montre ces derniers jours sur la base de Niamey au Niger le week-end dernier, ou téléphonant à Riyad pour intervenir sur le conflit au Yémen, ou bien communiquant encore hier dans la presse espagnole en répondant aux questions du quotidien El Mundo. Ce qu'on peut dire, Antoine, c'est que le canard enchaîné hier matin a brisé quelque peu cette belle mécanique de communication.
Merci beaucoup Ludovic Piétenu. On l'apprend ce matin, le parquet de Nanterre a ouvert le mois dernier une enquête préliminaire pour obsolescence programmée et tromperie à l'encontre du fabricant japonais d'imprimantes Epson. C'est l'association de défense des consommateurs qui s'appelle Hop, Halt à l'obsolescence programmée, qui avait déposé cette plainte, estimant que les marques Epson, mais aussi Brother, mais encore Canon, programment la durée de vie de leurs cartouches d'encre, ces dernières devant être remplacées alors qu'elles ne sont pas totalement vides. C'est cette même association qui a déposé hier une autre plainte qui vise cette fois Apple, alors près que le géant américain a admis avoir ralenti volontairement ses anciens modèles d'iPhone.
L'actualité à l'étranger, un attentat très meurtrier ce matin à Kaboul. Au moins 40 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'attaque d'un centre culturel chiite de la capitale afghane.
Et oui, c'est le groupe État islamique qui l'a revendiqué au milieu de matinée, qui précise avoir eu recours à 3 bombes, dont les explosions donc ont été suivies par cette attaque suicide. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
Donc évidemment, on reconnaît là le mode opératoire de l'État islamique qui s'est une nouvelle fois produit dans la capitale afghane.
Oui, car si les talibans ont été prompts à dire qu'ils n'avaient aucun lien avec cette attaque, le IS est en revanche vite manifesté à travers son agence de propagande Hamak pour reconnaître donc l'attaque de ce matin contre le centre culturel chiite Tabian. Leur communiqué a affirmé avoir ciblé un centre qui reçoit le soutien de l'Iran. Et il faut signaler que près de ce centre était également visée l'agence La Voix de l'Afghanistan, contrôlée elle aussi par la minorité chiite du pays. Donc oui, depuis qu'ils ont fait leur apparition dans le pays en 2015, les membres de l'EI, qui étaient surtout implantés dans la région de Nangarhar, frontalière avec le Pakistan, se sont d'abord attaqués aux villageois de la région pour imposer leur présence, puis se sont affrontés aux forces armées, et leur cible reste aussi, comme en Irak, la population chiite. Alors, la question que l'on se pose aujourd'hui est celle de l'avancée de l'EI. En théorie, des sources américaines disent qu'il y aurait moins de djihadistes de l'EI en Afghanistan, les évaluant à 700 alors qu'ils étaient estimés à 3000. Difficile de le confirmer car d'autres sources parlent de redéploiement, au contraire de l'EI, depuis sa défaite en Syrie et en Irak, avec la présence signalée de combattants étrangers, certains français ou tout au moins francophones, originaires de pays du Maghreb, d'autres venus d'Asie centrale, d'autres d'Arabie saoudite ou d'autres pays du Moyen-Orient. Et donc, comme on l'a vu ce matin, ces membres de l'EI ne sont plus cantonnés aux seules régions frontalières avec le Pakistan, mais peuvent frapper de manière audacieuse à Kaboul.
Merci beaucoup Nabila Hamel. Au Yémen, 68 civils tués dans 2 raids aériens, des raids de la coalition qui est dirigée par l'Arabie Saoudite. Première frappe a touché notamment un marché très populaire, très fréquenté dans le sud-ouest du pays. Et puis le président russe Vladimir Poutine qualifie d'acte terroriste l'explosion ce matin d'une bombe artisanale qui a fait 13 blessés dans un supermarché de Saint-Pétersbourg.
Question, que faire des enfants de djihadistes français arrêtés en Syrie ou en Irak?
Alors jusque-là, on en était à la théorie, puisque Emmanuel Macron avait affirmé en novembre que le sort des femmes et des enfants devait être examiné au cas par cas, et on vient donc de passer à la pratique. Selon nos confrères de France Inter, 3 enfants d'un couple français qui était parti rejoindre l'État islamique en Irak ont été rapatriés, et il a fallu pour cela, Antoine Maret, des mois de dialogue entre le Quai d'Orsay et la Croix-Rouge, ainsi que les autorités irakiennes.
Et c'est dans l'intérêt supérieur des enfants qui sont âgés de 3 à 8 ans que leur rapatriement a été décidé. Leur avocat français, maître William Bourdon, a dans un premier temps contacté le Quai d'Orsay en août dernier, qui s'est mis en relation avec les autorités consulaires sur place et qui, avec l'aide de la Croix-Rouge, a donc négocié avec les autorités irakiennes le retour des enfants. Ils ont été confiés à l'aide sociale et placés dans des familles d'accueil. Leurs 4 grands-parents vont demander un droit de visite et un droit de garde. Leur père a été tué à Mossoul, la mère est emprisonnée en Irak. Son 4e enfant, âgé de moins d'un an, qui est donc né en Irak, se trouve toujours sur place avec elle. Né de parents français, il acquiert automatiquement la nationalité française et les autorités françaises ne vont pas lui tenir rigueur de l'absence d'état civil. Mais son jeune âge fait que les autorités irakiennes ont choisi dans un premier temps, de le laisser auprès de sa mère. Si sa mère est condamnée, il sera lui aussi probablement rapatrié en France, comme ses frères et sœurs, et confié à l'autorité publique, au moins dans un premier temps. Pour ces quatre enfants en bas âge, la réponse de l'État français est assez logique. On tente de les réinsérer dans la société. D'autres cas plus complexes concernant des mineurs français plus âgés vont sans doute se présenter, des mineurs qui pourraient avoir participé à des crimes au sein de l'EI. Rappelons qu'en France, un mineur peut être poursuivi pénalement à partir de 13 ans.
Antoine Marette. 1 heure moins le quart, l'invité de la séquence interview pour cette semaine où on tente de retrouver le fil de l'actualité. Nous sommes avec l'historienne Sophie Vanisch. Bonjour.
Bonjour.
Alors lundi, Jean-Pierre Winter avait tiré le fil de la religion. Mardi, Myriam Revaud-Allonnes, celui de la démocratie qui était plus ou moins menacée en fonction des régions. Et puis hier, Dany Robert Dufour nous expliquait que le logiciel contemporain pouvait être en phase avec la fameuse fable des abeilles. Alors je vous pose la question, comment est-ce qu'on peut se faire une intelligence globale de votre point de vue de la situation où nous sommes ?
Il me semble que l'actualité du jour appelle des choses très classiques depuis Machiavel, au moins depuis Machiavel, qui est la lutte des classes. On a tendance à penser que c'est une affaire faite, c'est-à-dire conclue, dépassée, obsolète, comme l'encre Epson. Mais en fait, il y a quelque chose qui apparaît avec cette affaire des grandes fortunes, où 500 personnes donc voient leur fortune augmenter de 23%, disposer de moyens extraordinaires, alors que on emploie différents moyens pour mieux écraser les plus dominés, à savoir ces ruptures conventionnelles et la manière dont on peut contrôler les chômeurs. Donc on voit que la lutte des classes, en fait, elle est extrêmement active, mais du côté d'une domination effective des plus puissants, alors qu'on a dans l'imaginaire que la lutte des classes, c'est la capacité des dominés à se révolter. Alors peut-être que cette capacité des dominés à se révolter, c'est ce qui semble avoir disparu. Mais pour autant, la lutte des classes est bien là et il y a bien quelque chose qui est de plus en plus violent. Et là, on retrouve finalement Machiavel quand il dit que la différence entre les puissants, les dominants et les dominés est une différence de nature. Que les puissants considèrent qu'ils n'ont jamais suffisamment et qu'ils ont le sentiment de perdre s'ils n'accumulent pas davantage, alors que les gens ordinaires souhaitent simplement bien vivre. Et donc toute la théorie du buen vivir, c'est la théorie du menu peuple qui souhaite bien vivre. Mais quand on va trop loin dans l'écrasement du menu peuple à force de suraccumulation et d'hybris, alors effectivement, il peut y avoir de la sédition. Alors, je ne sais pas si nous sommes allés trop loin ou pas, et pour quelles raisons, pour le moment, il n'y a pas de sédition, mais on peut avoir des hypothèses. Voilà, on est au XXe siècle et pas à l'époque de Machiavel, et donc il faut effectivement mettre en route des hypothèses qui sont celles de Machiavel même, c'est-à-dire ce qu'il dit, c'est que finalement ce sont les manières d'être au monde et les émotions qui sont différentes pour les dominants et les dominés.
C'est-à-dire ?
Eh bien que être du côté d'avoir envie de bien vivre avec sa famille, de bien éduquer ses enfants, de vivre finalement une vie bonne, c'est pas la même chose que d'être dans la suraccumulation, du coup l'hyperarmement pour se défendre de supposées séditions à venir, et donc d'être sur le qui-vive en tant que riche qui fabrique finalement des murs entre les classes. Donc là, c'est pas du tout le même rapport au monde. Mais l'histoire du XXe siècle, je dirais de manière très évidente, a été un moment de telle cruauté, et qui continue, ce qui a été évoqué aujourd'hui, mais d'une cruauté plus grande encore que celle qui avait existé dans les siècles passés, et que plus la cruauté est grande, plus la sensibilité humaine est abîmée. Et que la capacité à se révolter dépend de cette sensibilité humaine. Et donc si on arrive à abraser complètement la sensibilité, on produit effectivement des êtres apathiques. Et l'apathie, c'est le contraire de la sympathie, et donc c'est la difficulté aussi, par apathie, à fabriquer du lien. Et pour pouvoir effectivement se révolter, il faut quand même avoir du lien et des stratégies.
Alors, on reprend non peut-être cette histoire de la lutte des classes, où depuis que l'idée, en tout cas le concept, a été mis en place dans l'histoire, on a vu qu'il y avait, malgré ce que vous dites sur les guerres, qu'il y a eu quand même une progression d'une espèce de résistance sociale, et malgré tout, les gens qui, comme vous le dites, veulent vivre normalement, pouvaient constater, en tout cas après la Deuxième Guerre mondiale, une amélioration de leur situation globale. Il semble que aujourd'hui, il y a quand même eu un point de renversement et que ce processus d'amélioration de tous, même si certains c'était plus que la moyenne, se soit un peu interrompu. Donc, comment on peut expliquer comment l'expliquer, cette rupture-là? Qu'est-ce qui s'est produit pour que ce soit plus violent, finalement?
Plus violent, la lutte des classes actuelles de la part des dominants, parce qu'ils ont absolument senti le vent du boulet avec les politiques du welfare state d'après la Seconde Guerre mondiale, qui reposaient quand même sur une critique très forte des théories hiérarchisantes nazies. Et donc il y a bien eu quelque chose d'un après-Seconde Guerre mondiale qui a tenu compte quand même de l'après-nazisme. Les programmes ont été faits quand même dans les résistances européennes et dans les résistances en général contre une idéologie qui est une idéologie de déshumanisation. Et ça avait porté ses fruits. Effectivement, la politique, que ça soit en Amérique du Sud ou que ce soit en Europe, était une politique qui permettait d'atteindre une réduction des inégalités et des modes de vie qui donnaient de plus en plus de place aux fondements démocratiques, à savoir l'éducation.
Donc quand on est sorti de cette période-là...
De cette période-là.
La période Reagan-Thatcher,
on peut même démarrer plus tôt, si on est un peu conséquent avec ce qui s'est passé justement au Chili et en Argentine. Septembre chilien en 73, c'est une manière de mettre un coup d'arrêt à toute l'hypothèse de réduction des inégalités et de possibilité d'inventer un droit de vivre à la manière dont peut en parler déjà Machiavel.
Mais on va parler un peu de l'anomie que vous évoquiez tout à l'heure. La physique finalement sociale voudrait que s'il y a une pression plus forte en contre-coup, il y ait une réaction aussi plus forte. Or ce n'est pas le cas, c'est un écrasement. Comment vous expliquez que cette loi physique finalement ne se
parce
produise
pas? Parce que la grande, c'est pas une loi physique, c'est une loi humaine qui suppose une sensibilité. Donc un certain type de rapport à la construction des sensibilités, c'est-à-dire que les sensibilités, on n'est pas des animaux simplement, on est des êtres qui supposent de produire des imaginaires sociaux qui sont constitutifs de l'éducation qui se transmet de la plus tendre enfance à la fin de la vie en fait, et que de produire l'envers de la tendresse, ça produit la cruauté. Et donc il y a quelque chose où le clivage des personnalités est de plus en plus fort et les gens supportent des niveaux de violence, de cruauté, de spectacle insupportable de plus en plus fort. Et du coup, ils n'ont pas de boussole intérieure ou de boussole collective, parce que les boussoles collectives, ce seraient les discours sociaux, en tant qu'ils sont capables de produire un sentiment d'humanité commun et que du coup on se sente solidaire, que ça soit des ouvriers de PSA qui vont être licenciés ou que ce soit personnes qui subissent la guerre en Syrie. Donc cette solidarité aujourd'hui, elle est très 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 labile, voire absente. Et donc la réduction de l'espace, le levier sensible est forte.
Est-ce que vous diriez que cette pression forte, accrue, s'accompagne de toute une stratégie aussi idéologique précisément pour détruire un peu cette sensibilité? Est-ce qu'il y a quelque chose de fabriqué ou c'est spontané ou est-ce que c'est parallèle?
Non, bien sûr qu'il y a un discours idéologique qui est du côté de la cruauté. C'est-à-dire que, certaine mesure, alors qu'on a, ce qui est intéressant dans l'exercice proposé, c'est qu'on a la série d'informations du jour. Ouais. Mais la simple juxtaposition des informations du jour entre l'application de la loi travail, la communication du président sur les chômeurs qui nous explique qu'il n'y a rien de choquant, les contrôler davantage, à côté de l'explosion des niveaux de richesse des milliardaires, là, il y a quelque chose qui s'entrechoque d'une manière immédiate. Mais si on vous explique que si vous aviez eu une espèce de haut-le-cœur à entendre parler de contrôle accru des chômeurs, c'est vous qui avez une sensibilité sensibilité étrange et que peut-être vous basculez du côté d'une certaine folie ou d'une certaine déraison, que ce qui est raisonnable, c'est de les contrôler davantage, parce que c'est bien connu depuis longtemps, il faut contrôler les gens incontrôlables. Et donc Taine aussi nous explique qu'il faut contrôler le peuple parce qu'il est passionné, mais qu'il est du côté des mauvaises passions. Et donc là, l'idée qui est donnée, c'est que les riches ont des bonnes passions, les pauvres ont des mauvaises passions, donc il est normal de contrôler les passions des pauvres et donc de les écraser. C'est ça le discours tenu.
Oui,
donc
c'est...
ce discours tenu a des effets, c'est-à-dire que les gens qui pourraient éventuellement se révolter ou en tout cas avoir encore un sentiment éthique de ce qu'est l'inhumanité et l'injustice peuvent se mettre à douter ou à se dire qu'ils sont de toute manière trop peu nombreux ou trop isolés pour que cette parole ne soit pas du donquichotisme.
Qu'est-ce qu'on fait alors, Sophie Vanisch?
Eh bien, je pense qu'on est dans une situation où il faut se regrouper malgré tout, même si on est très minoritaire. Moi, je pense qu'on est dans une situation à la Fahrenheit 451, quand on brûle les livres et que certains hommes apprennent par cœur des livres pour continuer à transmettre un héritage de densité. Et donc, c'est un effort à la fois vertigineux et absolument nécessaire. Et donc, il y a à réfléchir notre stratégie d'effort vertigineux et nécessaire pour maintenir une autre idée de l'humanité. Car malgré tout, l'être humain étant doué de raison et de liberté, ce qui a été changé peut changer encore.
Merci beaucoup Sophie Vanisch d'avoir accepté de jouer le jeu donc de ce commentaire à chaud des différentes informations pour retrouver le fil de l'actualité. On poursuit demain donc et le temps sera pluvieux et le ciel voilé sur la plupart des régions. Les températures de 7 à 13 degrés cet après-midi. Édition réalisée avec Emmanuel Faucillon. Prochain journal 18h avec Lise Verbeck.